Les 10 heures.
Qu'est-ce que c'est que les raconteurs d'itinéraires professionnels ?
Positive.
Nous ne perdons pas de temps, au bout de 4 secondes, la question est posée.
Une immersion proposée par Seb Dill.
Qu'est-ce que c'est que les raconteurs d'itinéraires professionnels ? Nous le découvrons aujourd'hui dans Positive Onde.
J'ai une amie, sa maman, elle était médecin dans un service des urgences. Elle avait un poste assez haut et elle a fait ça toute sa vie. Et là, elle doit avoir la cinquantaine. Et elle a décidé de tout plaquer et de tenter plein de métiers qui la faisaient un peu rêver quand elle était jeune. Et du coup, elle a commencé par se mettre à mi-temps et maintenant elle a complètement arrêté. Et là, elle veut tester plein de métiers différents.
Il y a beaucoup plus de gens que ce que vous imaginez qui changent à 50 ans. Moi, j'ai 72 ans, j'ai été formateur pendant 20-30 ans. Avant, j'étais graphiste. Et depuis 4 ans, ce que je n'aurais même pas imaginé il y a 5 ans, depuis 4 ans, j'ai arrêté de faire la formation parce que ça me saoulait et je suis devenu prof dans les écoles de commerce. Donc, sur les matières que je connaissais, management, communication. Donc, les changements, alors c'est pas un changement profond de métier, je continue à faire de la formation d'une autre manière, mais c'est un autre univers, il a fallu que j'envoie des candidatures spontanées, que je rencontre des directeurs d'école. Bon. Et voilà, donc. Les changements, c'est à tout moment que ça peut venir.
Je m'appelle Emmanuel de Secati, je fais partie de l'association depuis 4 ou 5 ans maintenant, donc les raconteurs d'itinéraires professionnels. C'est une association qui s'est créée il y a une dizaine d'années, une bande de copains, je dirais, de gens qui avaient l'envie d'avoir une action citoyenne, de s'engager dans quelque chose qui soit utile aux citoyens. C'était simplement pouvoir, dans un premier temps, s'orienter. C'était les idées qu'on avait partagées, on avait abouti à une idée commune qui était trouver un moyen d'aider des jeunes à appréhender le monde professionnel, le choix d'un métier, le choix d'une carrière, avec le moins d'angoisse possible, le moins d'anxiété possible.
Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présents. Pour vous faire un petit ordre du jour, ça va être tout simple. Il va y avoir une bonne heure avec les raconteurs d'itinéraires professionnels.
On est venu à 4 raconteurs vous rencontrer. Gilles, Nadia, Emmanuel et moi, Jean-Pierre. 4 d'une association qui s'appelle les raconteurs d'itinéraires professionnels. Alors, je vous mets à l'aise, on ne raconte pas nos itinéraires parce qu'ils sont spécialement intéressants. J'irais presque, ils sont, non pas qu'ils ne soient pas intéressants, mais ils sont pas, ça n'a rien de, on n'a pas fait les championnats du monde de récits professionnels. Simplement, on est parti sur l'idée que ça pouvait être intéressant pour des jeunes entrant dans la vie professionnelle, mais au-delà de ça, pour des gens qui sont en phase de réflexion sur eux-mêmes, de changement professionnel, ça pouvait être intéressant d'entendre des choses vécues dans ce domaine, comment ça s'est passé en vrai. Pas dans les manuels, pas dans les sites internet, en vrai, pour chacun de nous, comment ça s'est passé.
On va vous présenter 7 petites capsules de membres de notre association, quelques vidéos de témoignages de moments dans la vie où il s'est passé un truc qui a fait que quelque chose a changé, et comment on a vécu ça.
Les interventions qu'on effectue sont de 4 sortes. La première, c'est ce qu'on appelle le récit. Donc on est toujours au moins 3 raconteurs. On est devant un public et on raconte, en une vingtaine de minutes, notre parcours professionnel. Le deuxième, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On a réalisé entre nous des petits témoignages, des petites capsules vidéo de 3-4 minutes où on raconte un moment dans notre vie professionnelle. Troisième type d'intervention, on appelle ça l'homme livre. L'idée, c'est de... Vous savez, quand on va dans une librairie et qu'on cherche un bouquin, on regarde la 4e de couverture, et c'est cette 4e de couverture qui nous donne envie ou pas d'aller plus loin. Donc on a, par rapport à notre histoire professionnelle, notre itinéraire, on a rédigé chacun d'entre nous un petit texte d'une dizaine ou vingtaine de lignes, un peu teasing, hein, qui donne envie d'en savoir plus. Donc on fait lire ces textes, et c'est eux qui nous interrogent. Donc c'est le système inverse de raconter son récit. C'est eux qui nous disent, bah tiens, vous dites à tel moment, un événement inattendu lui a fait qu'il est parti à Paris pour ses études. C'était quoi ce moment inattendu? Donc l'interaction est renversée. Et puis, le quatrième type d'intervention s'appelle point d'appui. Alors là, on le réserve à des publics plutôt adultes, qui sont déjà dans une logique d'accompagnement. L'idée, c'est de travailler, de raconter comment nous, à certains moments, sur quoi on s'est appuyé pour nourrir notre réflexion ou aborder un changement d'une manière différente.
On va écouter Isabelle.
J'ai démarré ma vie professionnelle dans le monde associatif à Strasbourg, où j'ai d'abord commencé par un engagement jeune volontaire dans une association dont la mission était de répondre à toutes les questions des jeunes. J'ai fait cela pendant quelques années. À côté, j'avais des missions à la Chambre de commerce et dans un cabinet juridique. J'ai travaillé en tant que documentaliste. Je me suis bien plu dans ces missions. Puis à un moment donné, j'ai eu envie de plus de challenge. Et en lisant la presse, j'ai vu qu'une nouvelle municipalité arrivait à Mulhouse et souhaitait inventer un nouveau service pour les jeunes. Du coup, j'ai pris ma plus belle plume, j'ai écrit au maire et j'ai proposé mes services en disant que la jeunesse, c'est un sujet qui m'intéresse et que j'étais prêt à inventer avec eux un nouveau service pour les jeunes à Mulhouse. Pas de nouvelles. Et au bout de 3 mois, une délégation de la ville de Mulhouse arrive dans mes bureaux à Strasbourg et me dit « ça nous intéresse, on va co-construire ensemble un nouveau projet pour les jeunes mulhousiens ». Génial! Puis ils voulaient que ça démarre tout de suite, évidemment. Du coup, je suis partie avec mon bâton de pèlerin et avec cette belle délégation rechercher des locaux, faire les travaux. Je me suis transformée en chef de chantier, interviewer les jeunes, aller à la rencontre de toutes les structures qui existaient déjà sur le territoire mulhousien et se dire, mais qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour que les jeunes de Mulhouse puissent devenir autonomes, rencontrer les acteurs qui les intéressent et construire leur parcours professionnel. Et c'est ainsi qu'on a créé une nouvelle association qui réunissait à la fois un bureau d'information jeunesse, une mission locale, un espace multimédia et un espace santé jeune. Fort de toutes ces rencontres, de tous ces partenaires, on a pu construire un projet qui existe toujours aujourd'hui, qui a bien grandi et qui répond encore à toutes les questions des jeunes. Cette opportunité de réponse à une candidature, une nouvelle municipalité qui arrivait sur un territoire, de rencontrer les acteurs, les élus, de travailler avec eux et de co-construire avec les jeunes un projet, ça a été formidable. J'ai lancé cette lettre de candidature comme une bouteille à la mer, je proposais mes services, j'étais toute jeune à ce moment-là, mais pendant ce temps-là, je continuais à travailler dans l'association dans laquelle j'étais. Donc, effectivement, le temps était long, mais je me suis dit, ma lettre est arrivée à un moment inopportun, ils ont déjà trouvé quelqu'un d'autre, ils sont déjà sur d'autres projets. Et puis un jour, ils débarquent dans mon bureau, et là, c'était mon plus beau cadeau de Noël, c'est-à-dire qu'effectivement, eux, ils ont pris mon courrier, et puis ils ont continué à réfléchir avec leur réalité territoriale. Et quand ils sont venus, ils étaient prêts à construire. Et ça a été à la fois une reconnaissance de ma proposition et puis un travail partenarial de grande qualité.
Nous venons d'écouter l'extrait d'une vidéo projetée aujourd'hui. Effectivement, et vous l'aurez compris, aujourd'hui, il s'agit de 7 vidéos qui sont proposées aux étudiants présents dans l'assistance.
Moi, je dirais que la bouteille à la mer, c'est souvent quelque chose qui peut nous apporter finalement. Moi, par exemple, je suis étudiant en master et j'ai déjà réalisé des stages avant. Et il y avait un poste qui me plaisait énormément, sauf qu'il recherchait uniquement des CDI. Je m'étais dit pourquoi pas envoyer ma candidature. Au final, j'ai eu un entretien, le directeur a aimé ma candidature et j'ai eu le poste. Je ne dis pas ça forcément pour m'en raconter au poste, je dis juste que certaines fois, même quand on pense ne pas avoir de chance, mais qu'on veut avoir quelque chose derrière, c'est juste d'envoyer une lettre, de laisser postuler. Et pourquoi pas derrière avoir le poste. Donc c'est une histoire qui m'a assez marqué et me suis reconnu dans ce témoignage.
Et ça me fait penser à quelque chose. Est-ce que vous connaissez l'aquabonisme ? Est-ce que c'est un mot qui vous parle ?
C'est un aquaboniste, un faiseur de plaisanteries tristes, qui dit toujours à quoi bon, à quoi bon.
L'aquabonisme, c'est une espèce de petit virus malin qu'on se chope tous à un moment ou à un autre. Bon. et qui fait qu'on a tendance à se dire à quoi bon ? À quoi bon candidater ? À quoi bon pousser cette porte ? Je dois être le 200e, donc ils ont déjà reçu. Donc à quoi bon ? Alors que toi, ce que tu nous racontes, ou ce que Isabelle nous raconte, c'est l'inverse. C'est bon, après tout, qu'est-ce que j'ai à perdre ? Et ça, c'est, on rencontre souvent ce genre de est-ce que c'est de la peur, est-ce que c'est de la crainte, de l'anxiété, de manque de confiance. Mais en tout cas, voilà, ça c'est un sujet sur lequel on vous invite à un virus qu'on vous invite à combattre. Parce que finalement, on verra dans deux types de témoignages, rien n'est jamais écrit d'avance. Alors, c'est certain, statistiquement, il y a certains postes qui suscitent beaucoup de candidatures, mais qu'est-ce que ça coûte de tenter sa chance ?
Un aquaponiste qui se fout de tout et persiste à dire je veux bien, mais au fond, à quoi bon ?
On s'est dit qu'on n'était pas habilité ni légitime pour parler d'orientation, puisqu'il y a beaucoup d'organismes dont c'est la spécialité, et nous-mêmes, on ne connaît pas les filières, on n'est pas suffisamment compétent là-dessus. Et on s'est vite rendu compte que, par nos échanges, qu'une des questions qu'on s'est posées, nous, quand on avait 14, 15, 16, 18 ans, c'était « qu'est-ce que je vais faire plus tard ?» avec tout ce que ça peut comporter d'incertitude, de questionnement, de je sais pas, j'ai pas d'idée, etc. Et on a cherché à s'engager sur ce terrain-là. Donc notre idée aujourd'hui, notre façon de faire, c'est de venir parler de nos itinéraires professionnels, des choix qu'on a fait, des aléas qu'on a rencontrés, des retournements de situation, des changements de métier, parce qu'on s'est rendu compte les uns les autres qu'on avait tous eu des accidents dans notre vie professionnelle, que ce soit des licenciements, des maladies, des rencontres aussi, des opportunités, qui finalement... on avait tous plus ou moins fait plusieurs métiers dans notre vie, ou parfois le même métier, mais dans des endroits différents, des circonstances différentes. Donc l'idée c'est ça, c'est que ce témoignage montre à ces jeunes qu'on ne fige pas sa carrière ou son choix à 18 ans. Quoi. Voilà.
On n'a rien à vendre, on ne veut surtout pas dire voilà ce qu'on a fait, faites la même chose, parce que ce n'est plus possible, mais c'est quand même la vraie vie professionnelle et ça intéresse tous ceux qui vont bosser.
Oui. Moi, c'est plus une question de vocabulaire, mais quand vous dites vie professionnelle, est-ce que vous englobez aussi tout ce qui est du coup association, stage, etc., ou c'est vraiment un métier
Alors, dans nos... Alors, je parlais des raconteurs, on mélange presque tout le temps la vie professionnelle et la vie personnelle, parce qu'on sait très bien qu'il y a des interférences. Moi, j'ai eu 4 enfants, et ça m'a influencé mes choix. Il y a des moments où je n'ai pas démissionné, parce que je ne pouvais pas, enfin, je n'osais pas. Donc il y a toujours des liens, donc on pour nous c'est un ensemble, c'est pas la vie professionnelle d'un côté, la vie associative, la vie familiale, il y a toujours des liens qui impactent.
Mais ça qui pour nous est important, c'est que c'est pas parce que je rentre dans la vie active avec ce métier-là que je le ferai toute ma vie, que je le ferai de la même manière toute ma vie, je ferai peut-être un autre métier, etc. Donc il y a un moment donné, il faut se jeter à l'eau. Mais ça ne veut pas dire que la piscine sera toujours la même taille, l'eau a toujours la même température. Non, c'est ça qu'on veut vous faire comme message principal.
Même quand on travaille, on fait des choix qui nous amènent ailleurs. Quoi. Enfin, des choix voulus ou pas voulus, d'ailleurs.
Oui.
Mais on évolue, en tout cas.
Bonjour, Emmanuel. J'ai le plaisir de t'entendre sur un moment où vous devez démarrer ta vie professionnelle, avec une proposition qui t'a posé quand même quelques problèmes.
Oui, oui, qui m'a vraiment fait gamberger beaucoup et réfléchir beaucoup pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. J'avais 20 ans à l'époque et les 4 années précédentes, j'avais 16 ans, je travaillais tous les étés dans le magasin de mon oncle, qui avait un magasin d'électroménager, et je passais le mois d'août à livrer du matériel, des machines, des congélateurs, des téléviseurs, amener des machines réparées, ramener au magasin des machines en panne. Bref, c'était vraiment moi, un travail de livreur, SAV. Et j'adorais ça. J'allais dans des petites fermes, j'allais dans des villages, dans des villes. Voilà. Et j'adorais ce contact avec les gens et cette liberté, cette indépendance finalement.
Tu étais payé ou c'était...
Ah, j'étais payé au SMIC, mais j'étais payé quand même. Et la dernière année, mon oncle me dit, écoute... Si tu veux, bon, lui avait des filles dont les maris ou les fiancés étaient dans d'autres études, donc il m'a dit, si tu veux, tu reprends le magasin, tu prends la suite. Moi j'avais 20 ans, il en avait 55 à l'époque. Et dire, c'était quelque chose qui m'attentait beaucoup, parce que j'adorais ça, mais j'adorais ça pour le mois d'août. Mais du mois de septembre au mois de juillet, j'étais sur d'autres registres. Mes rêves, c'était la musique, l'écriture, le dessin, l'illustration. Donc, je me voyais mal m'engager dans quelque chose qui paraissait un peu fermé, déterminé. Et puis, première chose, j'avais envie de choisir ma vie, et pas qu'on me la propose. Et deux, j'avais pas envie de m'enfermer dans une petite ville de 10 000 habitants. Donc, j'adorais mon oncle, c'est quelqu'un que je respectais beaucoup et que j'admirais beaucoup. Donc, j'ai fini par refuser. Et je le regrette pas, parce que je me suis rendu compte bien des années plus tard que c'était vraiment pas quelque chose qui était fait pour moi.
Ta peine, ta joie, tes rêves, tes cauchemars, ce n'est que ton choix, tes doutes, tes espoirs. Tout est question de foi, croire en l'impossible, ce n'est que ton choix, mais vise la bonne cible.
Est-ce que vous diriez que vous êtes là aujourd'hui pour nous parler de tout ça et que vous êtes raconteur parce que vous êtes satisfait et fier de votre parcours? Et que du coup vous avez envie de transmettre l'importance de faire des bonnes décisions, ou justement parce que vous avez des regrets par rapport à votre parcours et que vous êtes là pour me dire de ne pas faire les mêmes erreurs?
Pour moi, je vais répondre pour moi, c'est pas parce que j'ai pas de regrets, parce que j'ai bien aimé tout ce que j'ai fait, même si j'ai pris des belles gamelles, même si j'ai fait une faillite, même si j'ai fait plein de parcours cabossés. Mais donc non, il n'y a aucun regret, c'est plutôt l'envie de faire partager un itinéraire.
On pourrait effectivement dire, ben moi j'ai fait cette erreur, ne la refaites pas. Mais ce qui pour moi, à un moment, était une erreur, n'est peut-être pas une erreur pour quelqu'un d'autre, à un autre moment. Moi je considère que d'avoir dit dire non à mon oncle, d'avoir refusé de reprendre sa suite, je pense que j'ai fait le bon choix. Et j'en ai eu la confirmation après, parce que à l'époque, c'était un moment où il n'y avait ni la FNAC, ni Darty, ni les grands réseaux de distribution, donc c'était un magasin indépendant. Mon oncle était un personnage important, tout le monde le connaissait. Donc je me suis dit, prendre la suite, être le neveu de monsieur machin, me retrouver, là je l'ai raisonné a posteriori, avoir dû m'incommoder du fait qu'il fallait descendre l'enseigne Monsieur Marijon et devenir Connexion ou Darty ou la FNAC, à rentrer dans le monde de la grande distrib, parce qu'il n'y a plus d'indépendants aujourd'hui, bien longtemps, dans ce domaine d'activité. Voilà, c'était pas fait pour moi. Donc je me serais probablement cassé la gueule si j'avais repris le magasin. En plus, je me suis rendu compte, déjà sur le moment, mais encore plus après, que son job, c'était un job de management. Il avait 25 personnes dans sa boutique, il manageait 25 personnes. Certes, il avait le sens du commerce, il avait la bosse du commerce, mais voilà, et là, ça aussi, moi, manager 25 personnes dans un magasin, c'est pas mon truc. Donc, c'est pas une erreur, mais peut-être que ça aurait été une autre personne, ça aurait pu se traduire par une erreur. Voilà, c'est ça. Donc, faut pas vous mettre en tête, il y a des choses à faire et des choses à pas faire. C'est, écoutons nos envies, écoutons, saisissons les opportunités, certes, parlons-en à droite à gauche, ne restons pas tout seuls, parce que là aussi, dans des moments où on se pose des questions, on a un peu toujours l'impression d'être seul seul au monde, quoi. On n'a pas le réflexe d'aller en parler. Et encore moins souvent parce que on se pose des questions, on n'est pas sûr de soi, on dit oui tout va bien, puis ouais, je t'en fous, tout va bien. Bon. Donc voilà, donc pas de regret. Et pourtant Dieu sait si, comme Gilles, j'ai connu des moments où j'angoissais chaque fois que je mettais ma carte bleue de voir le petit message paiement refusé. ça m'est arrivé plus d'une fois. Voilà, mais bon, je suis encore vivant. Et je pense pas qu'il puisse y avoir le bon ou le mauvais choix. C'est vous, à un moment donné, si vous prenez la précaution de vous ouvrir votre questionnement à peu importe, à un ami, des parents, de la famille, à aller voir un professionnel, à quelqu'un qui ne vous connaît pas, voilà, ça vous aidera à vous dire, mais c'est votre bon ou mauvais choix pour vous, mais pas pour votre voisin.
En fait, il faut suivre ses envies. Enfin, c'est facile à dire, c'est pas facile à faire et c'est pas toujours clair ses envies. Mais en tout cas, il y a des fois, on prend une décision négative en disant « je le sens pas ». Cette expression « je le sens pas », elle a beaucoup de sens. Ça veut dire qu'elle résonne pas quelque part en soi. Et ça, il faut arriver à sentir ce qui résonne et ce qui résonne pas. Et il faut suivre quand on sent que ça résonne pas, il faut pas. Et quand on sent que ça résonne, il faut y aller. Mais je suis d'accord que c'est très facile à dire et c'est beaucoup plus compliqué.
Mmh. Vous savez, en tout cas, qu'on dise non ou qu'on dise oui, bien souvent, sur des décisions comme ça, qui sont quand même pas neutres, on n'endort pas pendant quelques jours après. Hein. Si on a dit non, c'est ce que j'aurais pas dû dire oui, parce que j'ai pas fait une connerie, et que si on a dit oui, on a accepté un job, on s'est engagé, on dit moi, est-ce que je suis pas en train de faire une connerie, quoi. Donc voilà, c'est comme dit Gilles, le pif, c'est quand même quelque chose qui compte. Quoi.
Pour moi, le significatif, celui qui m'habite encore le plus, c'est ma reconversion professionnelle lorsque j'avais 50 ans passés d'ailleurs. Je situe un petit peu les choses, donc c'est après une carrière de presque 25 ans en tant que pharmacienne biologiste, donc en laboratoire de bactériologie, virologie, j'ai vraiment éprouvé le besoin, l'envie de sortir de ce, on va dire, de ce microcosme, d'un milieu très spécialisé, d'un milieu un peu confiné en tout cas, voilà, un peu en retrait on va dire. Pour aller vers quelque chose de plus relationnel, de plus proche de l'humain, quoi. Alors, je dirais que un gros facteur déclenchant de ça, de cette réorientation, c'était la maladie, finalement. Hein. Donc, j'étais atteinte d'un cancer du sein, j'avais 45 ans. Au niveau santé, j'ai été bien soignée, ça s'est bien passé. J'ai eu un peu de convalescence, mais c'est vraiment au retour dans le monde du travail que, alors d'une part, j'ai vraiment pris conscience que je ne m'épanouissais plus, et en même temps que cette prise de conscience, je ressentais une grande énergie, c'était une pulsion de vie après la maladie quand même un peu importante, et donc vraiment une énergie, j'avais l'impression de pouvoir déplacer des montagnes à ce moment-là. Et j'ai continué à travailler là où j'étais, mais bon, j'ai fait ce qu'il fallait, enfin, bilan de compétences. En tout cas, je suis rentrée dans une période de réflexion, là, pour chercher, mais alors, si je ne fais pas ça, qu'est-ce que je vais faire? Et donc là, il m'est apparu que j'avais envie de travailler dans le domaine de la santé. Enfin, j'étais déjà dans le domaine de la santé, mais sur un pan tout à fait différent. Et une fois que les choses ont été enclenchées, j'ai fait un choix, j'ai choisi la naturopathie. En parallèle, j'étais déjà dans une formation un peu longue à l'enseignement du yoga, qui peu à peu dans ma tête s'est bien allié avec la technique de santé. Et petit à petit, mon projet a germé et puis a fini par se construire suffisamment pour que je puisse quitter Biomérieux. Et m'installer en tant que naturopathe et professeur de yoga.
On voit bien que tout ce qui se passe dans nos vies, ça reflète aussi ce qui va se passer dans la vie professionnelle. Enfin, c'est ce que vous disiez, que vous ne mettiez pas de différence. Parce que là, on voit bien qu'après une maladie ou un accident, ils ont été obligés de réfléchir, de prendre du temps. Et du coup, ça a guidé un peu leur vie. Et je pense que, je sais qu'en discutant avec des amis, tout ça...